Leipzig. Il est 6h30 à Abidjan, 7h30 à Yaoundé, à l'écoute des RFI, 8h30 ici à Paris. Bonjour Edouard Dupénoat.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
L'actualité africaine avec vous et des dégâts toujours plus massifs dans l'ouest et le centre du continent après les inondations.
Du désert du Sahara jusqu'à l'extrême nord du Cameroun, différents pays continuent de revoir encore leur bilan humain et matériel à la hausse. Niger ou encore Mali ces derniers jours. Le Burkina Faso va retirer des permis d'exploitation d'or accordés à certains miniers étrangers. Ça se ressent déjà sur les places boursières, nos explications dans quelques minutes. Une manifestation au Ghana pour exiger l'application d'une loi contre les minorités sexuelles, un texte adopté par le Parlement ghanéen mais toujours pas ratifié par le président. L'interpellation en Côte d'Ivoire d'un cadre du PPACI, parti d'opposition. Son avocat dénonce la manière forte avec laquelle il a été arrêté.
En Centrafrique, les femmes se fédèrent et s'organisent.
Et ce sera tout l'objet du dossier de ce journal dans une dizaine de minutes avec un ensemble d'associations professionnelles de femmes centrafricaines. Rolf Steph Domialeu sera avec nous.
Une très large partie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre n'en finit plus d'évaluer les dégâts après les inondations.
Le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, mais aussi le Niger et le Mali qui publient presque coup sur coup leur dernier bilan actualisé. L'agence nigérienne de presse parle de 339 morts dans les pluies et les crues des 4 derniers mois. 1 million de sinistrés. Au Mali, ces catastrophes ont fait 76 morts, 260 000 sinistrés. L'état de catastrophe nationale est toujours en vigueur. Le comité interministériel poursuit ses actions d'évacuation et son assistance. Parmi les secteurs les plus durement affectés, l'éducation, la rentrée des classes a été décalée au début du mois de novembre, David Baché.
Dans cette école située au bord du fleuve à Bamako, les deux tiers des salles de classe sont ravagées, les murs à terre. On avait pu mettre à l'abri la plupart des tables-bancs, se console un responsable. À ce jour, les pouvoirs publics n'ont apporté à son école aucun soutien matériel ou financier, ni donné aucune consigne. Beaucoup de nos élèves ont eux-mêmes perdu leur maison, s'inquiète encore ce responsable. Ils sont relogés avec leur famille dans des écoles publiques. On ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Car il y a les écoles détruites ou endommagées et celles qui, épargnées, servent de lieu d'accueil pour les sinistrés. Actuellement, selon les chiffres officiels, 128 écoles sont occupées et 399 sont inondées ou endommagées dans le pays. La mairie et les services du développement social sont à pied d'œuvre, rassure un cadre pédagogique joint à Gao, dans le Nord. Son établissement, qui accueillait des sinistrés, a pu être libéré avant même le 1er octobre, date initialement prévue pour la rentrée. Son report avait été annoncé la veille au soir, ce qui avait pris tout le monde de court. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, a promis que le gouvernement prendrait rapidement des mesures pour permettre l'accueil des élèves le 4 novembre prochain.
À l'actualité malienne, encore, c'est l'armée qui indique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal et que les soldats ont pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés près de Tinzawaten à la fin du mois de juillet. Les rebelles du CSP avaient alors tué plusieurs dizaines de soldats maliens et de mercenaires de l'ex-groupe Wagner. C'est la première fois que l'armée malienne communique sur cette opération. Selon les informations de RFI, environ 70 véhicules militaires chargés de soldats maliens et de supplétifs russes sont mobilisés depuis la fin du mois de septembre. L'actualité dans le Sahel toujours. Au Burkina Faso, où petit à petit la nationalisation fait son nid, le pays entend bien reprendre la main encore davantage sur sa production industrielle d'or. Voilà ce qu'on retient, entre autres, des déclarations du capitaine Traoré dimanche sur la RTB, le dirigeant de transition qui explique qu'il est en train de retirer des permis d'exploitation à plusieurs multinationales du secteur installées au Faso. Et cela après avoir déjà fortement augmenté les redevances dont ces sociétés devaient s'acquitter. Alexis Bédu, bref, l'objectif est clairement affiché.
La reprise en main du secteur se poursuit après la révision du code minier en juillet. Ibrahim Traoré, assez clair sur ses objectifs concernant les sociétés étrangères.
Je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes.
Pas plus de précisions sur les entreprises visées. Le géant britannique Endeavour, plus grand producteur d'Afrique de l'Ouest présent au Burkina avec son très prolifique projet Houndé, a plongé en bourse ce lundi. Hier, le minier australien West African Resources a lui prévenu avoir reçu l'assurance de la junte que son permis ne serait pas retiré, mais la pression sur les miniers reste très forte.
Pour être politique, c'est politique.
Thierry Vircoulon est chercheur associé à l'Institut français de relations internationales.
C'est contre-productif, mais comme ils sont dans un bras de fer financier, ils augmentent les taxes, etc. Au bout d'un moment, les gens qui dirigent les compagnies, ils auront fait leur compte, ils diront bah, si ça dépasse tant, c'est plus rentable. Si c'est plus rentable, on bloque et si on bloque, eh ben, le gouvernement les expulsera.
Une nationalisation du secteur à petits pas, notamment via la société de participation minière du Burkina, ressuscitée fin juillet après des années de mise en sommeil.
Alexis Bédu, sur les matières premières toujours, on apprenait ces derniers jours que Ouagadougou d'une part, mais aussi Bamako d'autre part, avait interdit l'exportation d'amandes de karité. Elle est très utilisée dans le secteur des cosmétiques et dans celui de l'agroalimentaire. Pourquoi cette décision? Quelles conséquences peut-on en attendre? C'était l'objet de la chronique des matières premières de Marie-Pierre Olfan. Vous la réécoutez sur RFI.fr.
En Tunisie, la victoire annoncée de Kaïs Saïed accroît les craintes des défenseurs des libertés publiques.
90,7% pour le président sortant, c'est ce que disait l'instance électorale. Un plébiscite à mettre en regard tout de même d'une participation qui plafonne à moins de 29%. Le dirigeant est accusé depuis 3 ans d'accaparer peu à peu tous les pouvoirs, de museler les voix critiques et de mettre au pas ses opposants. Eh bien, tout cela devrait s'accroître encore pour ce nouveau mandat, prévient Atem Nafti. Il est l'auteur d'un ouvrage sur le pouvoir du président Saïed et il l'explique à Ouda Ibrahim. Le dirigeant ne cache pas ses intentions.
Le président n'a pas fait campagne, il a publié une profession de foi et il a fait une vidéo à la toute fin de campagne jeudi dernier. Dans les deux cas, c'était très violent et il promettait donc d'en finir avec les traîtres, les corrompus. Donc ce qui ne présage rien de bon pour ce qui est des libertés, étant donné qu'il considère que ses opposants sont par définition des traîtres et des corrompus. Il a redit ça le jour de sa réélection. Et il a même dit que les personnes qui se permettent de critiquer sa réélection font partie des corrompus. Et l'instance électorale hier a prévenu que toute personne qui dirait que ces élections étaient truquées d'une manière ou d'une autre serait systématiquement poursuivie. Donc je pense que ça annonce un petit peu la couleur. On va plutôt aller vers plus de répression, toujours au nom de cette lutte pour la libération de la Tunisie et pour cette lutte contre la corruption. Donc pour moi c'est assez clair, il va y avoir une chape de plomb. On va dire que le peuple est d'accord, étant donné qu'il a été magistralement réélu.
Atem Nafti, qui est l'auteur du livre « Notre ami Kaïs Saïed, essai sur la démocrature tunisienne », paru aux éditions Rive-Neuve. C'est un dossier maintenant qui empoisonne la future campagne présidentielle du Ghana, tout autant que la fin de mandat du président Akufo-Addo. Une manifestation s'est formée hier à Accra pour demander l'application d'une loi profondément répressive contre les minorités sexuelles. Le texte punirait de lourdes peines de prison quiconque s'identifierait ou soutiendrait ces minorités LGBT+. Le texte a été adopté fin février par le Parlement, mais le chef de l'État ne l'a pas ratifié en disant attendre que la Cour suprême se prononce. À Accra, pour RFI, Victor Cariou.
Ce n'est pas une, mais bien deux fois que la Cour suprême a reporté la date de l'audience. La raison ? Toutes les parties n'ont pas déposé leur demande dans les délais prévus par la juridiction, a-t-elle précisé dans un communiqué publié ce lundi. La Cour a également indiqué qu'un nouvel examen de ces demandes devrait se tenir à la mi-octobre, soit 8 mois après le dépôt initial des 2 recours formulés par la société civile, ces derniers demandant l'annulation du texte pour non-respect de la constitution ghanéenne. Cette proposition de loi, si promulguée, condamnerait à des peines allant de 3 à 10 ans de prison toute personne qui s'identifierait comme membre ou qui soutiendrait la communauté LGBTQ. Un texte de fait bloqué, la présidence ayant indiqué dès le mois de mars qu'elle attendait la décision de la Cour suprême avant de se prononcer. Les soutiens de la loi accusent quant à eux le président de céder aux pressions internationales par crainte notamment de perdre des financements, des allégations restées sans réponse à ce jour. Son vice-président et candidat à l'élection du 7 décembre, Mahamoudou Bawumia, a quant à lui répété à de maintes reprises son rejet de l'homosexualité, sans jamais cependant se référer directement à la loi. Victor Cariou, Accra. RFI.
Le gouvernement et la présidence camerounaise font entendre leur vive colère et dénégation après les rumeurs sur la santé du chef de l'État. Rumeurs qui ont enflé notamment sur les réseaux sociaux après l'absence de Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU ou encore au sommet de la francophonie. Communiqué vigoureux de Yaoundé hier soir, la présidence explique que Paul Biya vaque à ses occupations à Genève. Le communiqué se conclut en expliquant que le président rejoindra le Cameroun, je cite, « dans les tout prochains jours ». L'opposition du PPACI en Côte d'Ivoire dénonce les conditions d'interpellation de l'un de ses cadres, Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint en charge de la société civile, interpellé samedi dernier, inculpé deux jours plus tard pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État. La justice lui reproche notamment d'avoir co-organisé mi-septembre une manifestation interdite contre la vie chère, mais son avocat s'indigne. Fallait-il vraiment envoyer la troupe pour interpeller son client ?
Il était chez lui à la maison lorsque un détachement de police a débarqué, des gens encagoulés qui, devant toute sa famille, l'ont interpellé. Alors, je me suis posé des questions. La loi dit que lorsque des faits sont reprochés à une personne, à un citoyen, on lui sert une convocation. Quand on lui sert une convocation qui ne se présente pas, qui ne compare pas devant l'officier de police qui l'a convoqué, alors on peut se permettre d'envoyer la police le chercher. Mais ça n'a pas été le cas. On a débarqué chez lui à la maison avec plusieurs cargos et des gens masqués, pour la plupart. Ils l'ont interpellé. Il s'est retrouvé même à la préfecture de police en culotte. La manière dont il a été interpellé, c'est irrégulier.
Maître Huyo Canoblé, avocat de Charles Rodel Dosso, propos recueillis par Binta Diagne. Les bureaux de vote ont ouvert tout à l'heure pour 17 millions d'électeurs au Mozambique. Triple élection attendue aujourd'hui, présidentielle, législative et provinciale. Plusieurs observateurs s'attendent à ce que deux autres candidats viennent troubler le duel maintes fois rejoué entre la Renamo et le Frelimo.
À 8h41, le dossier de ce journal en Centrafrique, Edouard, auprès d'une fédération économique qui ne cesse de monter en puissance.
Oui, elle s'appelle la FAFECA et derrière ce sigle se cache les Centrafricaines. FAFECA, c'est la Fédération des associations des femmes centrafricaines. Avec une idée simple, dans la mesure où les femmes sont des actrices et des piliers économiques incontournables, autant mutualiser les forces et les bonnes volontés. Illustration d'abord avec un atelier pratique, la confection de confitures. Rolf-Steph Domialeux.
La vitrille épluchée les mangues, c'est le quotidien de Valentine, membre de la FAFECA.
C'est une richesse qu'on peut avoir tout dedans. Parce que dans la mangue, on peut avoir la confiture, on peut sécher la mangue, on peut faire le vin de mangue, l'alcool de mangue, gel de mangue.
Les mangues sont coupées en petits morceaux pour faciliter le mixage dans les machines.
Quand on met dans les bocals, on ferme bien, on met l'eau au feu et on laisse bouillir jusqu'à 15 à 20 minutes. Après cela, on laisse refroidir et on met les étiquettes dessus.
Une quarantaine de femmes sont aujourd'hui formées dans ce domaine grâce à l'initiative de la Fédération des associations des femmes centrafricaines. Bachir Nyangso est coach en entrepreneuriat.
L'objectif global, c'est d'arriver à accroître les connaissances de ces 40 femmes-là autour de la question de l'agriculture, de l'élevage, pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'augmenter leurs revenus et également de renforcer leurs connaissances entrepreneuriales.
Ces confitures sont commercialisées partout en République centrafricaine, selon Valentine.
Ça nous permet de gagner notre vie, c'est notre activité génératrice de revenus. Ça nous permet de gérer notre foyer, aider aussi au survie de notre famille.
La FAFECA offre aux femmes centrafricaines des formations socioprofessionnelles, organise des foires agricoles et des débats pour donner la chance à toutes les femmes de s'épanouir. Rolf-Steph Domerleux, Bongui, RFI.
La FAFECA a longtemps mûri son projet. Elle est aujourd'hui présente dans les 20 préfectures que compte la Centrafrique. Et c'est sa présidente qui nous donne les grandes lignes de son action, Portia Deya Abazen.
Nous fournissons un mentorat spécialisé. Cela permet aux femmes de développer leurs compétences entrepreneuriales, de créer et gérer des entreprises florissantes et surtout de devenir économiquement indépendantes. Nous accueillons au siège de la FAFECA avec plaisir toutes les associations et les coopératives dirigées par des femmes, de manière à créer une inclusion totale, un réseau solide et diversifié de femmes engagées dans l'entrepreneuriat.
La présidente de la FAFECA avec notre correspondant, Rolf-Steph Domial. Le petit changement de programme enfin pour les fans de foot. La CAF chamboule un peu les calendriers des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Finalement, ça commence demain. Derby d'Afrique australe, Namibie-Zimbabwe à la mi-journée. 48 matchs en fait à suivre jusqu'à mardi. On ne les fera pas tous. Pour cela, vous avez africfoot.rfi.fr et la sélection du chef Olivier Pron, journal des sports dans une heure.
Dans moins d'une heure, mais merci Edouard Dupénot, à 8h44 à Paris.